À Rencontre spirituelle aujourd'hui, en ce 18 décembre, c'est la fête de Saint Gatien, le premier évêque de Tours. Tours qui est au cœur, en France, de, pour ainsi dire, l'histoire du Québec. Sont venus de Tours bien des gens remarquables. Au début de notre histoire ici, en Amérique du Nord, mais Saint Gatien, qui a vécu il y a bien longtemps, j'ai pensé le remplacer par quelqu'un de beaucoup plus moderne, par Claude Brunet. Claude Brunet, oui. Car c'est aujourd'hui la journée du comité des malades qu'il a fondé. Et Claude Brunet étant décédé le 15 juillet 1988, bien pour célébrer l'anniversaire de son entrée au ciel, il faudrait faire une émission en plein été, mais c'est le temps des vacances. C'est aujourd'hui la 362e émission de Rencontre spirituelle. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Claude Brunet, je le dis en toute simplicité, pour moi, c'est un saint. C'est un saint montréalais. Un saint de chez nous. Et un vrai saint. J'ai eu la chance de le connaître un peu et de l'aimer énormément. C'est pas facile de parler de quelqu'un qu'on aime beaucoup. On a un peu les sanglots dans la gorge. Car c'est quelqu'un qui m'a beaucoup impressionné, beaucoup, beaucoup touché. Il est né à Montréal le 3 juin 1940. Il est donc mort à 48 ans. Il s'était marié le 23 juin 1973, en dépit de ses infirmités, à une femme généreuse, attentive à son égard, Janine Russica, R-U-S-C-I-C-A. Claude Brunet a été élève dès l'âge de 7 ans au Jardin de l'Enfance des Sœurs de la Providence à Saint-Vincent-de-Paul, c'est-à-dire sur l'île de Laval, ce qu'on appelait l'île Jésus à l'époque. De 48 à 56, donc pendant une bonne période de 8 ans, il a été hospitalisé, tout d'abord d'urgence, le 13 mai, c'est la date fatidique, 13 mai 1948. Il n'avait pas 8 ans encore, tout à fait. Il est hospitalisé à l'hôpital Pasteur, qui est aujourd'hui Henri Charbonneau, pour une méningite spinale. Il est sorti d'un coma de 11 jours, paralysé des membres inférieurs. Pauvre enfant, hein? Et après un long séjour à cet hôpital, il est finalement retourné dans sa famille pour quelques mois, puis au printemps de l'année suivante, 1949, il est admis au centre des paraplégiques des anciens combattants à Sainte-Anne-de-Bellevue, tout à fait dans l'ouest de l'île de Montréal. Sous les soins de cet illustre docteur connu mondialement, ce Québécois merveilleux, que j'ai déjà eu l'honneur d'interviewer à l'émission Rencontre à la télévision de Radio-Canada, Gustave Gingras. Il a été son patient jusqu'en 1969. Et malgré son immobilisation en fauteuil roulant, il est devenu membre, c'est assez étonnant, des Louveteaux à Sainte-Anne-de-Bellevue, justement. Puis il a été hospitalisé dans divers hôpitaux tout au long de cette période-là. À part quelques cours privés, bien, sa formation s'est faite surtout dans des milieux de personnes malades, de personnes âgées. Toujours avec une immense attention de la part de ses parents, et particulièrement de sa mère. De l'âge de 16 à 19 ans, il était de retour au foyer. Il a poursuivi ses études, justement, avec l'aide de sa mère, qui était attentive et près de lui jusqu'à sa mort. Son hospitalisation de 1959 à 72 à Saint-Charles-Borromée, une première période, a été le fruit de choses absolument phénoménales qui en ont fait un saint et un apôtre et un des plus grands hommes de l'histoire du Québec. En juillet 59, donc, il a été hospitalisé à Saint-Charles-Borromée. Saint-Charles-Borromée, c'est ce centre hospitalier, ou cet hôpital, si vous préférez, qui est situé sur le boulevard René-Lévesque, juste à l'est du boulevard Saint-Laurent. Un grand bâtiment de briques rouges. Et c'est là que s'est déroulée une chose absolument merveilleuse, une résurrection. Sa faiblesse à la colonne vertébrale, quand je parle de résurrection, je parle d'une résurrection de l'âme, de l'esprit, de l'intelligence et de tout. Une faiblesse donc à la colonne vertébrale, puis une infection au rein, le clou au lit jusqu'en 1969. Et là, une civière spéciale qu'il pouvait actionner lui est donnée, lui est mise à sa disposition, le rend ainsi capable de se déplacer. Et cette période de sa vie lui a permis de parachever, bien lentement, mais avec beaucoup de finesse, sa formation par l'étude, la prière, la réflexion. C'est un autodidacte. Avec l'aide de l'abbé Valère Dubé, qu'on appelle le père Valère, qui est l'aumônier depuis plus de 30 ans, depuis près de 35 ans, dans cet hôpital, d'un ancien professeur de français, qui a été d'ailleurs moine à Saint-Benoît-du-Lac pendant plusieurs années. Il a quitté juste avant de faire les vœux solennels. Il a été aumônier, donc, à Saint-Charles-Borromée pendant tout ce temps. Il avait aussi enseigné quelque temps au Collège de Montréal. Pour ceux qui se souviennent, qui ont fait leurs études là, eh bien, c'est bien lui. C'est ce Valère Dubé. Et donc, Claude Brunet a pu perfectionner sa connaissance de la Bible, du français. Il a aussi étudié l'anglais, la psychologie, puis il a acquis une certaine maîtrise en dactylographie. Et durant cette période, eh bien, il a participé activement à la vie communautaire de cet hôpital. Et en 1964, alors que le bénévolat était mal perçu, puis même refusé, malheureusement, par la direction, puis par le personnel aussi, il a commencé, lui, à accueillir les tertiaires dominicains, puis des étudiants d'une vingtaine de collèges. Puis, c'est incroyable, cet homme, jeune, étendu sur une civière, s'est mis à organiser des loisirs pour les patients. En mars 64, d'ailleurs, il a rédigé avec Raymond Dumais, quel homme merveilleux qui a fait des études d'histoire en dépit de ses infirmités, eh bien, il a rédigé avec Raymond Dumais, que j'aime beaucoup, des lettres à l'intention du courrier des lecteurs de deux grands quotidiens montréalais. Pour obtenir quoi? Que la loi accorde des allocations mensuelles aux invalides qui ne vivent pas dans des institutions, ainsi qu'aux aveugles et aux vieillards, et bien que cette loi soit amendée en faveur des invalides hospitalisés qui, eux, ne recevaient absolument rien. Et en septembre 1964, donc quelques mois plus tard, il collabore à la fondation du journal mensuel de pastoral, qui est toujours publié par le père Valère, La Bonne Nouvelle. Quantité d'articles intéressants dans cette petite feuille d'apparence anodine, mais quelle richesse, elle vaut bien d'autres revues. Et les articles que Claude Brunet préparait chaque mois ont été plus tard publiés par les éditions Saint-Paul en deux recueils. Le premier recueil, « Ma souffrance », l'autre, « Ma contestation ». Les éditions Pauline ont réédité « Ma souffrance » en 1983. On peut y lire en page 58, « Dieu n'a rien à donner en échange de la souffrance ». C'est Claude Brunet qui écrit ça. « Dieu n'a rien donné en échange de la souffrance ». Je parle d'une souffrance qui n'est pas illuminée ou transformée par la mentalité du Christ. Cette souffrance qui est le salaire du péché. Et la Bible nous montre que loin d'envoyer des épreuves aux hommes, il met ses délices à les fréquenter. Oui, Dieu met ses délices à nous fréquenter. C'est vrai ce qu'il dit. Et il ajoute, c'est-à-dire à les faire participer à son bonheur et à porter avec eux le poids de leur malheur. Les hommes sont sauvés, béatifiés par ce Dieu, pris comme compagnon de route et source d'amour. Et non par le simple fait d'être accablé d'une lourde charge de souffrance ou de paraître courageux, serein, impassible dans l'épreuve. Et il dit un peu plus loin, on peut trouver bon, par orgueil ou par simple respect des autres, de supporter vaillamment son lot d'épreuves, même si cela est archi-dur et parfois désespérant, mais attribuer à une telle souffrance un mérite magique, ou croire qu'elle a automatiquement, sans l'influence de la grâce, une valeur surnaturelle, c'est se faire illusion. Ce qui compte aux yeux de Dieu, ce qui conduit progressivement à la plénitude du bonheur céleste, c'est l'attitude consistant à vivre, à souffrir, à aimer avec le Christ et comme lui. D'où cette cordiale invitation de Jésus et qu'il me suive. En octobre 64, Claude Brunet participe à la fondation de l'équipe Saint-Charles, qui est devenue cette merveilleuse diaconie de Saint-Charles-Borromée, dont je vous ai déjà parlé en ondes. C'est un groupe de jeunes qui chantent en grégorien le mercredi soir, là-bas dans la chapelle, l'office du soir, et qui surtout le dimanche, à la messe, le matin, un peu passé 10 heures, je crois, 10 heures et quart, eh bien, ils chantent durant la messe, ils aident à ces célébrations magnifiques qui sont faites pour les malades. Et ils aident aussi les malades. Ils les nourrissent, ils les assistent, comme les bénévoles. Et rien n'est mieux, je crois, pour ceux qui n'ont rien à faire, que de se donner ainsi, pourquoi pas, à Saint-Charles-Borromée comme bénévole, ou si vous êtes un peu plus jeune, comme membre de la diaconie, qui est gérée par le père Valère. En 1969, Claude Brunet donne son témoignage dans une émission, un film fait sur l'hôpital Saint-Charles-Borromée, dans une série « Visages de l'Église ». C'est un film d'1 heure sur l'hôpital Saint-Charles-Borromée qui a été présenté le 21 décembre 1969. J'ai eu le bonheur de réaliser ce film, de voir à toute l'organisation de ce film. Et la même année, il a donné une interview d'1 heure avant la messe de minuit au réseau français de Radio-Canada. Je l'avais invité aussi à cette émission qu'on qualifie dans des textes de prestigieuse, l'émission Rencontre, que j'ai réalisée pendant 20 ans, à la télévision de Radio-Canada. La première homélie de Claude Brunet, qu'il a donnée le 27 juin 1970, lors d'un après-midi, il y avait une liturgie de la parole qui avait préparé les infirmiers auxiliaires de l'école de l'hôpital Saint-Charles-Borromée à prêter serment professionnel, il a déclaré des choses si admirables que j'aimerais vous en faire la lecture de quelques passages. Il dit à un moment donné, cette journée de promotion pour une 20aine d'infirmières et infirmiers auxiliaires est beaucoup plus pour moi qu'une explosion de réconfort et de joyeuse espérance. Il s'agit bien, en effet, d'une explosion d'espoir pour ceux qui ont quelque idée du besoin criant dans presque tous les hôpitaux de personnalités authentiquement humaines, qui sachent allier le dévouement au savoir technique, allier un cœur vibrant de compréhension et de bonté à un diplôme éclatant de fierté et de promesse. Et dans ce paragraphe, il résume toute l'action qui va l'habiter jusqu'à sa mort. Ce souci de faire que nos hôpitaux, que nos centres d'hospitalisation, que nos centres de résidence de gens âgés ou de malades, soient des centres d'amour, d'espérance, de tendresse réciproque, de charité. C'est magnifique l'action de Claude Brunet, et je vais vous la narrer tout à l'heure, et j'espère que vous arriverez à aimer Claude Brunet encore plus que vous ne l'aimiez avant, et qu'au besoin, je crois, vous puissiez l'invoquer dans les moments où vous êtes comme dans un état de fatigue, de souffrance, car ce grand souffrant était un homme vivant et debout. Dans son discours dont j'ai parlé, cette homélie du 27 juin 1970, Claude Brunet disait aussi « Ce que ce jour représente de plus à mes yeux, c'est que grâce à la présence des étudiants, à votre présence dans l'hôpital, j'ai retrouvé confiance en l'homme. Je me suis reconverti à la valeur de l'homme. » Au sujet des médecins, la première lecture affirmait « Il y a des cas où la santé est entre leurs mains. » Mais le médecin, d'il y a 3000 ans, est vite surclassé par un auxiliaire d'aujourd'hui. Et comme l'auxiliaire devient les bras, les jambes, les yeux, bref, le représentant personnel du médecin, il a cet auxiliaire à sa merci. La santé sinon physique de ses patients, du moins leur santé psychologique ou leur morale. Mais est-il possible qu'un auxiliaire, continue Claude Brunet, qui touche à peu près le même salaire qu'un aide infirmier, se peut-il qu'un auxiliaire soit profondément soucieux d'apporter au malade un soulagement, un certain courage paisible et même une certaine joie de vivre? Il y a environ un an, pareille question, avec une réponse indécise en moi, je ne voyais pas assez clair pour pouvoir répondre franchement « oui ». Ou plutôt j'étais aveuglé, assommé par la constatation quotidienne du manque de discipline et d'attention pour le travail bien fait chez la majorité des syndiqués. Alors il a commencé ainsi à s'attaquer à certaines conceptions qu'on peut se faire dans certains syndicats, que le syndicat doit défendre même ces syndiqués qui ne sont pas honorables dans leurs fonctions. Et c'était très dur pour lui. Il ajoute, et je me disais, même les membres du personnel qui ont le sens du devoir, le sens de la délicatesse gratuite, vont se laisser décourager ou intimider par les agissements du plus grand nombre. Et les malades vont continuer à être frustrés dans leurs besoins les plus fondamentaux, besoin de boire au moins 5 ou 6 verres d'eau par jour, besoin de manger suffisamment, et non de se faire rentrer impatiemment quelques cuillerées de jello dans la bouche, comme ça se produit chaque jour. Besoin d'être régulièrement changé de position dans un lit non mouillé, etc. Puis, j'ai rencontré quelques-uns d'entre vous, et je vous ai vu à l'œuvre, et j'ai dû reconnaître que vous étiez des êtres étonnamment humains, et non de ces vandales qui, s'ils ne sentent pas la présence de la police, eh bien font leur besogne à la sauvette et volent leur salaire. Et je me suis aperçu que vous aviez l'étoffe qu'il faut pour pratiquer les respects de l'homme tel que Jésus le préconise dans l'évangile qui vient d'être proclamé. Un docteur de la loi demande au Christ, « Et qui est mon prochain ?» Il se fait dire, « Ton prochain, c'est un homme qui, s'étant fait attaquer par des bandits, a reçu tellement de coups qu'il reste là sur le bord du chemin à moitié mort. Voilà le prochain. » « Un agonisant, » dit Claude Brunet. « Qu'est-ce que ça vaut un homme tout faible et presque inconscient? Ou un homme qui se fâche facilement parce qu'il ne peut pas parler? Ou un homme qui est malpropre et oublié à cause d'une artériosclérose envahissante? Qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut le prochain, sans lequel il n'y a pas de salut, puisqu'on ne peut rejoindre Dieu, aller à Dieu qu'à travers le prochain, si déchu et si ingrat soit-il. » Il a dit ça en 1970, et sa vie jusqu'à sa mort est remplie de ces idées sublimes. J'entendais un prêtre qui me disait au téléphone qu'il n'aimait pas que les laïcs parlent de religion et se donnent l'impression de remplacer des prêtres. Eh bien, voilà. Voilà ce que ça donne quand un laïc témoigne. Et pourquoi ne pas témoigner? Il n'est pas question de remplacer des prêtres. La conclusion de Claude Brunet est la suivante. Je vous ai avoué que je m'étais remis à croire en l'homme à cause de vous. Mais n'oubliez pas ceci. Je suis un converti de fraîche date. Ma foi naissante, ma nouvelle foi, doit pouvoir s'appuyer sur vous. Il ne faudrait pas que je puisse douter de votre sens des responsabilités de votre intelligence et de votre diligence. De mon côté, je n'oublie pas qu'il vous est nécessaire d'avoir la compréhension, la patience et la reconnaissance des malades. Nous devrions, nous tous les patients, adresser une prière très très sérieuse et suppliante pour tous ces précieux diplômés. Oh, que Dieu vous accorde, bien chers amis, tout le succès désirable dans cette vocation si hautement humanitaire et si riche de signification pour l'immense humanité souffrante. Amen. Vous avez bien entendu, hein? Nouveau converti. 2 ans plus tard, en juin 72, il a 32 ans, Claude Brunet, en collaboration avec d'autres patients à long terme, forme le comité provincial des malades, dont c'est la grande fête aujourd'hui, 18 décembre, pour prendre la défense des personnes hospitalisées en permanence, car il y a parmi elles trop de victimes de négligence et de mauvais traitements, dit-il. Incorporé en octobre 1974, donc plus de 2 ans plus tard, sous le nom de Comité provincial des malades, cet organisme a graduellement étendu son action, s'occupe aujourd'hui tant de la promotion des droits des malades que de la création d'activités qui visent à leur donner le goût de vivre. On y cherche à les réintégrer à la société dont ils font partie. Et le Comité provincial des malades conseille et apporte son aide des centaines de comités de bénéficiaires qui lui sont affiliés à travers le Québec. Et ça s'est répandu à travers le monde, dans bien d'autres pays, cette idée de Claude Brunet et de ceux qui l'ont assisté au début. Il a été président du Comité provincial des malades à compter de novembre 1975. De juin à septembre 1977, donc à 35 ans, Claude Brunet a mené la lutte au nom du Comité provincial des malades contre une décision du gouvernement de fermer l'hôpital Saint-Charles-Borromée, où il habitait, et qui dispense toujours des soins à long terme. Il invoque la grande pénurie de lits pour malades chroniques. Il précise que dans la seule région de Montréal, plus de 1 000 de ces malades attendent leur hospitalisation. Alors il s'engage, avec le Comité provincial des malades, à aider, à secourir. C'est un mystique avec... J'allais dire les pieds sur le sol, mais il ne les avait pas les pieds sur le sol, il était étendu sur le ventre. Mais je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, c'était un homme debout. Et avec le concours des employés de l'hôpital et de l'organisme Sauvons Montréal, il a obtenu la révision de la décision du ministère des Affaires sociales. Il a obtenu le maintien de l'ouverture de l'hôpital. Il a animé des assemblées générales, des comités des bénéficiaires affiliés au comité provincial des malades. Il donne un suivi aux décisions prises par ces assemblées sur les problèmes qui les touchent, tels que les grèves dans les hôpitaux. Il est question aujourd'hui de la grève des médecins, hein, puis le comité provincial des malades aujourd'hui même agit et proteste de crainte que les malades soient dépourvus des vrais soins dont ils ont besoin. Et c'est ce qui arrive, je crois, à l'heure qu'il est. Il s'occupe aussi de la réduction de soins de service, hein? Parce qu'il lutte contre ça. L'hospitalisation des patients lucides, aussi parmi les confus et les non-lucides. Je me souviens de ma mère, qui avait comme voisine, 2 patientes non-lucides qui criaient continuellement. Pauvre maman, qui a dû endurer ça pendant des années. Puis il y avait le prix de l'hébergement aussi. Et lors du marathon du sourire en 1983, il fait circuler une pétition au ministre des Affaires sociales. Il lui demande de prendre des mesures nécessaires pour éviter toute fermeture de lits, afin de ne pas aggraver le problème des engorgements d'urgence dans les hôpitaux. Mais je vous fais grâce de tout ce qu'il a fait. Je pourrais vous en parler comme ça pendant Un temps fou. Mais inutile de s'étendre outre mesure sur toutes ses activités. Bon, il était membre du conseil d'administration de l'hôpital Saint-Charles-Borromée de novembre 72 à mai 76, et puis de 78 à 80. Il ne s'est pas présenté aux élections en 80, car les activités du comité provincial des malades l'accaparaient outre mesure. En 82, il obtient une injonction qui interdit la tenue d'un vote jugé légal par la Cour. Il s'occupe de toutes sortes de choses comme ça. Et je me souviens quand je travaillais à Radio-Canada et que je longeais le boulevard Dorchester à l'époque, c'est comme ça qu'on l'appelait, eh bien je le voyais seul sur sa civière motorisée, avec une tuque sur la tête au besoin. Il partait de l'hôpital Saint-Charles-Borromée, je vous le rappelle, près du boulevard Saint-Laurent, pour se rendre à l'Hydro-Québec, pour lutter auprès des ministres. Eux-mêmes descendaient de Québec pour le voir à Montréal. Ses cris ont retenti à la radio, à la télévision, dans les journaux. Et il a été tellement actif qu'il a obtenu beaucoup de choses pour le soin des malades. Ce saint chrétien catholique était un homme concret, engagé dans la justice. Quelle admiration nous devons avoir pour Claude Brunet. C'est aujourd'hui la fête du comité provincial des malades qu'il a fondé. Et c'est lui que nous célébrons, Claude Brunet, aujourd'hui, à Rencontre spirituelle, cette émission qui est diffusée tous les jours, du lundi au vendredi à 10h le matin et reprise le soir à 23h. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Il a publié, Claude Brunet, je vous en ai parlé tout à l'heure, « Ma souffrance ». Je ne saurais trop vous recommander de lire « Ma souffrance », publié aux éditions Pauline à Montréal. Ça a été traduit en anglais, en coréen, etc. Paru en 1983, mais je suis sûr qu'on en a encore aux éditions Pauline. Il a publié aussi aux éditions Pauline en 72 « Ma contestation » et en 73 et 83 réimprimé « Nous les oubliés », un ouvrage retentissant, retentissant. Il obtenait de nombreux titres, un certificat de citoyen de mérite du Conseil du civisme de Montréal en 82, un insigne vraie vie décerné par le ministère de la Santé nationale et du bien-être social à Ottawa. L'année suivante, en 83, un certificat d'honneur décerné par l'Association catholique canadienne de la santé. La même année, Community Service Award du Club Rotary de Montréal. Encore la même année, en 83, la médaille du mérite diocésain, Mgr Ignace Bourget, qui lui a été décerné par Mgr Grégoire à Montréal. J'ai moi-même eu l'honneur de recevoir ça. Et j'en profite pour remercier l'Église de Montréal. Toujours en 83, l'insigne de l'Ordre du Canada, au cours d'une cérémonie spéciale à l'hôpital Saint-Charles-Borromée, était présidé par le gouverneur général de l'époque, Edward Schreyer. Et puis, en 84, le prix Curelec, décerné par Alliance for Life. En 85, le prix du Conseil des hôpitaux de Montréal, décerné par l'Association des hôpitaux du Québec. Et puis, en 86, 2 ans avant sa mort, le prix Thérèse Casgrain, décerné par le ministère de la Santé nationale et du bien-être social. Il avait été interviewé à la télévision au Canal 10, à l'émission En toute amitié. Et j'ai retrouvé, comme ça en faisant la recherche, la lettre qu'il m'avait demandée, car à la fin de cette émission, il y avait toujours une lettre de quelqu'un qui l'estimait, et on m'avait fait cet honneur, énorme, immense, un des plus grands honneurs de ma vie, sinon le plus grand, d'adresser cette lettre à Claude Brunet. Je ne peux que la lire puisque je fais cette émission. Et je retrouve ce texte. Je me permets de le lire en toute simplicité. Mon cher Claude, quand je pense à vous, je ne puis que vous associer à cette extraordinaire Annette des hôtels qui, comme vous, a su constamment sourire alors qu'elle était clouée à son lit du foyer de charité. Je me souviendrai toujours de sa réponse à une question terriblement personnelle. D'où vous vient cette paix? D'où vous vient ce sourire? Et elle avouait, après avoir longuement hésité, « Je sais que Dieu m'aime, et je l'aime tellement. » Il me semble que c'est votre cas. Chaque fois que je vous vois, depuis plus de 20 ans déjà, je sais que vous me sourirez, et que je trouverai toujours en vous 1000 motifs de me réjouir. Et pourtant, au début, je me sentais un peu figé devant votre état. Vous étiez si jeune, et déjà réduit à passer toute votre vie couché, dépendant, emprisonné. Mais je sais maintenant que vous êtes depuis longtemps libéré. Vous êtes plus libre que nous, parce que votre liberté, elle vient de celui auquel vous vous êtes entièrement donné. Il vous a ressuscité, et vous êtes parmi nous l'un des plus vivants, des plus ardents, des plus éclatants. Défenseur des droits inaliénables des grands malades chroniques, fondateur du Comité provincial des malades, auteur de brefs ouvrages fort denses sur la souffrance, proclamateur de la Sainte Écriture durant tant de célébrations eucharistiques au centre hospitalier Saint-Charles-Borromée, prédicateur à la parole de feu et aux visions profondes, animateur de mouvements, inspirateur, vous êtes tout cela, et bien d'autres choses encore. Ce que Dieu a accompli en vous, cher Claude, dépasse l'imagination, et c'est pourquoi je ne vous rencontre jamais sans éprouver un supplément d'âme, comme disait Bergson. Un supplément d'âme, de courage, d'enthousiasme et de paix intérieure. C'est pour vous remercier d'avoir laissé le Christ Jésus vivre en vous que je viens, aujourd'hui, vous dire toutes ces choses qui ne sont que le reflet de ce que pensent tous ceux qui vous connaissent vraiment. Votre sens de la justice, votre amour pour vos frères les malades, votre haute conception du rôle des infirmiers et des médecins. Tout cela fait de vous, cher Claude, l'un des Québécois les plus remarquables. Et je sais que l'un des secrets de votre réussite, c'est votre conformité au conseil de l'Évangile, qui vous est surtout transmis par votre aumônier au dévouement sans bornes et connu sous le nom du Père Valère. Cet abbé Valère Dubé, prêtre séculier que je connais depuis plus de 40 ans, m'a aussi beaucoup marqué. Je ne saurais vous dire merci sans lui dire aussi merci. Dans mon cœur, vous êtes indissociable. Merci encore, cher Claude. Or, ce Claude Brunet est malheureusement tombé en bas de son lit, devenu gravement malade en 1988. Mais il avait écrit au sujet de sa maladie, de son état, en 1972, un très beau texte que je ne peux pas m'empêcher de vous lire. C'est de la bouche de Claude Brunet. « Seigneur, je n'ai qu'un corps ruiné à mettre à ton service. » Des membres incapables de s'adonner au travail, un estomac et un appétit facilement fermés à la nourriture, une tête grossière et lourde pour connaître et évaluer. Mais quelle joie et quelle reconnaissance je ressens devant l'ouvrage de tes mains, un extrait du psaume 91, Mais quelle joie et quelle reconnaissance je ressens devant l'ouvrage de tes mains, qui est aussi dans bien des cas le produit du génie de l'homme. De ce lit où ma carcasse est retenue captive, bien que mon esprit embrasse l'univers, je suis pris d'admiration pour la beauté innombrable qui brille dans tout ce que tu as créé, comme le diamant des étoiles dans le velours de la nuit. Même dans un buisson d'épines, on peut rester sensible à la fraîcheur d'un lac et d'une forêt, au doux parfum des fleurs et au joyeux ébat des écureuils. De même, porter la croix avec toi, être crucifié comme toi, Seigneur, cela n'empêche pas de vibrer au prodige de la technique et de la médecine et d'apprécier les charmes secrets des personnes rencontrées. Plusieurs jouissent de mille possibilités de déplacement et de distraction. Mais cependant, ils ne savent pas aimer. Ils s'ennuient à perdre espoir. Mais avec toi, ô Seigneur, qui seul fait des merveilles, les forces d'espoir et les raisons d'aimer ne me manqueront pas, puisque je peux redécouvrir sans cesse la splendeur de ce qui existe et de ce qui m'est donné dans un hôpital. Oh, merci de tant d'amour. Eh bien, de son lit d'hôpital, où il attendait la mort en 1988, il continuait à penser aux 60 000 personnes malades ou handicapées, vivant en institution au Québec. Il restait quand même, malgré son silence, leur porte-parole, car il ne pouvait parler qu'avec son regard brillant, et former quelques mots avec ses lèvres, et seule sa mère pouvait comprendre. Les visites ne pouvaient durer que 10 minutes par jour. Quand il voulait lire un document, on pouvait le mettre devant ses yeux, mais il tapait sur la page si on la tournait trop vite. Il y avait chez lui beaucoup d'autonomie, disait sa mère, Madame Brunet Pellant de son deuxième mariage. Il ne se plaint jamais. Claude Brunet ne se plaint jamais quand il est à l'hôpital. Il manifeste néanmoins un petit peu d'impatience, car le tube d'oxygène qui lui sort du cou le fatiguait. On est toujours surpris, quand on va le voir dans des occasions comme ça, de le trouver sur le dos, parce qu'il était toujours à plat ventre. Visage enflé, un sourire un peu édenté, mais c'est un vrai sourire plein d'intelligence, dit une journaliste Huguette Roberge dans la presse. À cause de ses difficultés respiratoires, il ne pourra plus retrouver évidemment sa civière et se coucher ainsi sur le ventre. C'est ce que précise sa mère. Mais les médecins, ajoute-t-elle, croient qu'il pourra peut-être circuler en fauteuil roulant. Pour eux, pour nous aussi, dit-elle, c'est une question de patience et de temps. Mais pendant ce temps, maître Michel Lanquin, assure l'intérim au comité provincial des malades, qu'elle dirige maintenant avec énormément de compétences et de dévouement. On peut rejoindre ce comité provincial des malades au 842-3991. Elle est, comme tout le monde, sa mère, stupéfaite par la force de son fils, qui serre la main de tout le monde et qui conserve les mains dans la sienne, comme pour s'assurer que les gens ont bien compris son message. Il dit quelques petites choses et sa mère traduit. Malgré tout, la vie vaut la peine d'être vécue. L'important, c'est l'amour, et bien sûr, Dieu est bon, dit-il. C'est parmi ses paroles les plus habituelles et les dernières paroles. Et il est mort le 15 juillet 1988, ce président fondateur du Comité provincial des malades, Claude Brunet, fils d'Arthur Brunet et de Marguerite Soriol. Alors il laissait son épouse, dont je vous ai parlé au début, Jeannine Russica, et ses frères, dont en particulier son frère Paul, maître Paul Brunet, que j'aime beaucoup et qui partage les idéaux de son frère décédé. Je vous ai dit qu'il avait été décoré. Il a aussi été nommé le patron d'honneur des chevaliers de Colomb. Il a été décoré par le club optimiste de Montréal-Saint-Paul. Il a reçu tellement de décorations. Et son service funèbre a été célébré dans la joie, dans une certaine façon, malgré les larmes, dans la cathédrale Marie-Reine du Monde. J'y étais, et c'était comme si c'était hier. L'abbé Valère Dubé, le père Valère, m'a envoyé quelques documents pour cette émission. Son petit mot se terminait ainsi, un saint handicapé pour notre temps. Oui, un saint handicapé, dont les funérailles ont été célébrées à la cathédrale, comme je vous disais. On m'avait fait l'honneur, encore une fois, de faire la première lecture qui s'applique tellement à Claude. C'est de la deuxième épître de saint Paul aux Corinthiens. Je lis le début. « Pour moi, je ne mettrai mon orgueil que dans mes faiblesses. Ah, si je voulais m'enorgueillir, je ne serais pas fou. Je ne dirais que la vérité, mais je m'abstiens. Pour qu'on n'ait pas sur mon compte une opinion supérieure à ce qu'on voit de moi ou à ce qu'on m'entend dire. » Et ça se termine car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ma grâce te suffit, dit Jésus. Ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. C'est le merveilleux retour des choses à l'intérieur de la foi. C'est le merveilleux retour des choses au sein du christianisme. Quelle grande religion que la nôtre! Quelle grande religion! Et au cours de cette messe, l'abbé Jules Parenteau, membre du comité provincial des malades, disait à un moment donné, dans son homilie, dans une confidence faite à un membre de sa famille, Claude souhaitait qu'à sa mort on se limite à la parole de Dieu et qu'on s'abstienne de faire quelque éloge que ce soit de sa personne. Il est vrai, ce vœu révèle sa foi absolue en l'efficacité de la seule parole de Dieu et en même temps son humilité sincère. Oui, son humilité sincère devant les succès remarquables de son action personnelle et sociale. Mais, ajoute l'abbé Jules Parenteau, mais il reste aussi vrai que la communauté humaine et chrétienne que nous formons attend avec raison, je crois, que son témoignage de vie se poursuive et continue de nous fournir une inspiration plus que jamais nécessaire et nous relance dans la poursuite fidèle de son œuvre. Qu'attend-on pour écrire sa vie? Qu'attend-on pour faire un film sur lui? Qu'attend-on pour en faire un des héros de notre histoire? L'abbé Parenteau ajoutait, Claude a traversé les derniers mois de sa vie en combattant jusqu'à l'épuisement de ses forces et avec un courage vraiment héroïque l'approche inéluctable de la mort. Cependant, nous gardons le souvenir d'un homme passionné de la vie, demeurant toujours souriant et serein, quelles que soient les difficultés et les épreuves, ayant le cœur habité par une espérance sans limite. Jamais, jamais abattu par les contradictions et les échecs souvent rencontrés sur son chemin. Et jour après jour, il poursuivait inlassablement ses objectifs, sachant en toute lucidité que sa condition physique ne lui permettrait plus un jour de réaliser son rêve. Bien oui. Quelle belle homilie qui se terminait ainsi. Si on veut découvrir le secret de cette espérance irrésistible qui a amené Claude à se jeter à corps perdu dans la mission presque impossible que le Seigneur lui a confiée dans un monde ravagé par l'égoïsme et l'orgueil, eh bien, écoutons cette assurance invincible que Jésus a livrée à ses apôtres à la veille de l'équité. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi et établi pour que vous alliez, que vous produisiez du fruit et que votre fruit demeure. si bien que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Et l'abbé Parenteau terminait maintenant. Nous ne pouvons plus nous étonner de la prodigieuse fécondité spirituelle de Claude Brunet, alors que dans sa faiblesse physique, il menait à terme une œuvre vraiment providentielle. Vraiment providentielle. Les articles qui sont parus dans les journaux à l'occasion de son décès étaient magnifiques. Des articles superbes dans la presse, de Liliane Lacroix. Oh, j'aurais le goût de vous les lire, il n'y a plus de temps. Un éditorial admirable de Claude Masson aussi dans la presse. Il a beaucoup parlé, mais il a aussi beaucoup vécu. Et c'est par sa propre condition de vie, dit Claude Masson, qu'il a fait réfléchir, qu'il a inspiré, qu'il a donné du courage à des milliers de ses semblables. Et cet éditorial se terminait ainsi. La disparition de Claude Brunet crée un choc, mais au-delà de sa mort, il continuera d'encourager la vie. Reprenant une pensée de saint Augustin, il pourrait redire à tous les malades, aux siens, « Regardez la vie que je commence et non celle que je finis. Il est dans le monde de l'invisible, mais il est plus présent à nous que jamais. Nous pouvons l'invoquer. Claude Masson a bien raison de parler de l'éternité. » Comment se fait-il que dans la presse en 88, on publiait toutes sortes d'articles merveilleux comme ça? Je n'en vois guère maintenant. Il me semble que tout est disparu sur les aspects profondément chrétiens de notre population, à grande majorité catholique, à grande majorité croyante, même si elle ne pratique pas autant qu'autrefois. Cessons de penser que nous sommes disparus de la société. Nous sommes toujours là, et de plus en plus vivants. Et dans le soleil, quelqu'un écrivait, Claude n'était pas un champion olympique, mais il avait plus d'endurance et de ténacité que tous les champions. Claude n'était pas un chef syndical, mais il a plus combattu sans salaire pour les personnes les plus dépourvues de la société moderne que tous les chefs syndicaux. Claude n'était pas un orateur debout ou à grand déploiement, mais même son silence sur sa civière parlait plus que tous les discours des grands parleurs. Je devrais me mettre ça devant moi très souvent, moi qui suis un grand parleur, puisque je fais une émission d'une heure tous les jours. Handicapé, quel homme n'aurait jamais existé, quel travail n'aurait été accompli si on l'avait supprimé, dit-il. Ben oui, aujourd'hui on veut supprimer les enfants qui naissent malades. Et il ajoute, ce monsieur Chamberlain de Québec, à quand une rue, un hôpital portant le nom de Claude Brunet? À quand la biographie de Claude Brunet proposée aux jeunes dans nos institutions d'enseignement? Ah, Claude, merci, tu as été un grand prophète, toi le grabataire plus actif que tous les bien portants. Le comité provincial des malades s'est mérité en 1995 le prix Droit et Liberté, attribué par la Commission des droits de la personne. Nous pouvons nous réjouir de ça. Et le 4 novembre 1996, tout récemment, c'était le 40e anniversaire de la fondation de Saint-Charles-Borromée, de cet hôpital admirable. Le cardinal Jean-Claude Turcotte y a prononcé des paroles absolument magnifiques. Et il a dit à un moment donné, « Je pense au service de pastoral qui occupe une place importante dans cette maison. » Oui, grâce au service de pastoral, des malades sont devenus des saints dans cet hôpital. Et il dit à un moment donné, le cardinal Turcotte, « Personne n'a jamais donné de réponse pleinement satisfaisante aux questions « Pourquoi tant de malades et tant de maladies dans le monde ?» Et il dit, « C'est sans doute parce qu'il n'en existe pas. » Il ajoute, « Je n'ai donc pas de réponse à apporter moi non plus, mais il me semble que je ne suis pas totalement réduit au silence. Je pose mon regard sur Jésus. Je le vois agir auprès des malades. » Il ne fuit pas les malades, Jésus s'en approche. Il n'accepte pas la maladie, il la combat, et souvent il la guérit. Il guérit des malades, il respecte les malades. C'est pour eux en premier qu'il est venu. Il termine en disant « Je souhaite que Saint-Charles-Borromée soit un lieu où ces paroles prennent tout leur sens. Oui, que dans tous les hôpitaux, les malades soient bien soignés et entourés. » Et puisqu'il dit, et qu'il puisse dire avec le psaume 71, aujourd'hui à la messe, partout dans l'église, le psaume entre les deux lectures, on lit ces deux versets, « Il délivrera le pauvre qui appelle, et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Oh, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Lui seul fait des merveilles. Béni soit jamais son nom glorieux. Toute la terre soit remplie de sa gloire.